Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de, tout simplement de la joie du ciel qui s'est manifestée à Noël. La joie qui est celle du salut des pécheurs. Et si on prend donc le texte biblique, il est beaucoup question de joie à Noël. Mais comment a commencé en quelque sorte cette joie ? Le jour même de la naissance du Christ, hein, dans Luc au chapitre 2, verset 10, je prends 10 à 20. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem. » Et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent à ceux qui leur avaient été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qu'ils entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Donc cette joie, eh bien, elle commence essentiellement au ciel, puisque c'est une multitude de l'armée céleste qui se joint à l'ange qui vient d'annoncer la bonne nouvelle, une multitude de l'armée céleste qui glorifie le Seigneur, qui envoie la paix à ses élus. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Donc c'est là que commence et qu'éclate la joie dans les cieux par la multitude de l'armée céleste. Il est dit dans Job qu'à la création, les anges et les étoiles se réjouissaient de l'univers qui se formait. Ils éclataient en chants d'allégresse. Eh bien ici, il y a l'équivalent lors de la naissance du Sauveur. Pour le peuple, la joie est annoncée, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Elle est annoncée, mais quand le peuple goûtera-t-il cette joie ? Un peu plus tard. Le peuple n'est pas encore conscient de la joie du salut. Par contre, pour les bergers, c'est d'abord l'interrogation, et puis après la vérification, eh bien, il y a effectivement la joie qui les gagne. Cette joie que tout concorde et que donc ils ont bien vu le Christ, le Sauveur qui leur était annoncé. C'est bien le Fils de Dieu, le Christ, le Seigneur qu'ils viennent de voir dans cette crèche et ils se retournent en glorifiant et louant Dieu de ce qu'ils avaient vu. Alors, ensuite, il y en a un suivant, donc, si nous lisons les versets 25 à 38, deux autres qui vont être saisis par la joie. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge, elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant arrivée elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Oui, Siméon d'abord. Siméon, c'est la joie d'être récompensé dans son espérance, mais surtout la joie de savoir que le salut est enfin là pour tous les peuples. De voir ce salut. Alors, il est rejoint ensuite par Anne, qui peut annoncer la délivrance de Jérusalem par la venue de Jésus. Donc, ces deux-là prophétisent. Ils sont des serviteurs, servantes du Seigneur qui se réjouissent de ce que s'accomplissent les Écritures. Et Joseph et Marie. Au verset 19, il est dit que Marie gardait et repassait toutes ces choses dans son cœur. Nous la voyons plutôt méditer, comme plus tard, au verset 51, après que Jésus, à l'âge de 12 ans, et soit allé dans le temple, et qu'il est dit qu'il s'occupait des affaires de son père, eh bien, il est dit aussi qu'il descendit avec eux pour aller à Nazareth, il leur était soumis, sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Toute cette période a été pour Marie une occasion de méditation, d'attente, d'observation de l'œuvre de Dieu. Cependant, il est quand même question d'admiration ici de la part des parents, au verset 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Ils ont donc connu une forme de joie à ce moment, tempérée certainement par la souffrance qui s'annonce, puisque, voilà, toi-même une épée te percera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Donc la joie de Joseph et Marie était suspendue à l'annonce aussi de ces souffrances et certainement donc contrariée par cette annonce. Mais cette joie, elle avait déjà été connue 6 mois auparavant. Si nous prenons chapitre 1, versets 57 à 69. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater sa miséricorde envers elle et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père, mais sa mère prit la parole et dit non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a personne dans ta parenté, personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes, il écrivit Jean et son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et de toutes les montagnes de la Judée. On s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant « Que sera donc cet enfant ?» Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces mots « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. » Zacharie n'est pas en train ici d'exalter la naissance de son fils. Il est déjà en train de se projeter sur la naissance du Sauveur, puisqu'il dit que Dieu a suscité un puissant Sauveur. Et ensuite, il dira que son enfant va marcher devant la face du Seigneur pour annoncer ses voies. Alors, 6 mois plus tôt, donc, de la joie dans les voisins, les parents d'Élisabeth, qui se réjouissent avec elle de la miséricorde que le Seigneur lui a faite, d'avoir été rendu capable d'enfanter. Et puis, la joie de Zacharie, dont la langue se délie et qui exalte la venue du Sauveur. Mais nous pouvons encore remonter 3 mois auparavant, dans les versets 39 à 47 de ce même chapitre 1. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Joie simultanée de Jean, encore fœtus, qui a reconnu la présence du Seigneur, et d'Élisabeth, qui a la mère du Seigneur devant elle. Quel privilège ! Et quelle joie par l'action du Saint-Esprit. Et immédiatement, la joie de Marie qui exalte le Seigneur par une action de grâce personnelle et pour ce qu'elle voit arriver de la justice de Dieu, c'est tout son cantique. Alors on peut dire que c'est là la joie de Noël, qui est la joie du Saint-Esprit. La joie de l'œuvre de Dieu qui se fait pour... Qu'est-ce qui est dominant dans tous ces passages ? Le salut des pécheurs. Le Saint-Esprit qui est à l'œuvre pour le salut des pécheurs par l'incarnation du Fils de Dieu. Et cela fait en définitive beaucoup de joie pour ceux qui sont en communion avec Dieu et pour ceux qui les entourent. Et cette joie, ces joies... court sur 9 mois, sans compter les 6 premiers mois de grossesse d'Élisabeth. Et puis, cette joie elle sera prolongée plus tard, si nous prenons l'évangile de Matthieu, chapitre 2, versets 9 à 11, par la venue des mages qui auront vu l'étoile. Où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Alors, je prends un peu plus loin, verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et ils offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Donc ça, c'est encore un peu plus tard. C'est toujours la même joie qui est manifestée. Alors, nous fêtons Noël à un jour précis, mais toutes ces joies se sont étalées sur 1-2 années et nous les raccourcissons en quelque sorte en ayant choisi un jour pour fêter la naissance du Seigneur, parce que bien sûr, il a quand même fallu qu'ils naissent à un moment donné. Mais voilà, la joie s'est manifestée longtemps avant cette naissance et elle a continué à se manifester ensuite. Alors moi, j'ai envie de nous dire à tous, eh bien, que le Seigneur, à différents moments de l'année, puisse nous faire expérimenter la joie en comprenant mieux son plan de salut. À chaque fois que nous pénétrons dans un aspect du plan de salut, que nous comprenons mieux l'œuvre de Dieu, eh bien, nous nous réjouissons de la joie de Noël, de la joie de la venue du Sauveur dans le monde. Et puis, on peut dire que le salut lui-même, bah, il s'expérimente en tout temps. Et alors, la joie du ciel qui a été manifestée, donc le jour même de la naissance du Seigneur, eh bien, cette joie qui est venue, on peut dire, sur la terre, retourne au ciel, parce que c'est bien cette joie-là qui maintenant se manifeste lorsqu'un pécheur se repent. Lorsque Jésus dit, hein, dans le chapitre 15 de Luc, toutes ces paraboles qu'il donne sur la repentance du pécheur, il les termine par verset 7. « Je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Et puis, au verset 10, « Je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Et puis, dans la parabole du fils prodigue, « Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Et enfin au verset 32, « Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. » La joie de Noël se prolonge à chaque fois qu'un pécheur se repent. À chaque fois que quelqu'un prend la voie du Seigneur par la repentance, reçoit dans son cœur le salut de Dieu, il y a au ciel la même joie que lors de la naissance du Christ sur la terre. Plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent. Alors oui, la joie des parents de Jésus a été ternie par l'annonce de la croix. Mais qu'en a-t-il été pour le Seigneur lui-même dans son humanité? Nous savons qu'il est annoncé comme étant l'homme de douleur, habitué à la souffrance par le prophète Ésaïe. Mais a-t-il connu lui aussi de la joie d'être parmi nous sur la terre? Il a connu deux types de joie. D'abord, si je prends le chapitre 15 de l'Évangile selon Jean, les versets 10 et 11. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. En gardant les commandements de son Père, Jésus était dans la joie et il désire que ses disciples reçoivent et partagent cette joie. C'est une joie profonde de garder les commandements de son Père. Nous avons la même chose au chapitre 17, verset 13. Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Donc la joie de Christ, c'était de faire la volonté de son Père, de recevoir ses commandements, de les mettre en œuvre et de donner sa vie pour le peuple. Et puis, il y a un autre moment où cette joie du Seigneur est reçue de façon soudaine, une joie intense par le Saint-Esprit. C'est différent lorsque Luc chapitre 10, verset 21, le Seigneur, je prends les versets 17 à 21, les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Alors nous, ici, nous sommes ramenés à la notion de repentance du pécheur qui donne l'accès au ciel. Le Seigneur demande à ses disciples de se réjouir de ce que leurs noms sont écrits dans les cieux. Et puis, il y a cette visitation du Seigneur par le Saint-Esprit qui lui fait glorifier le fait que l'évangile, la bonne nouvelle, peut être reçue par tous, par les simples. Donc chacun d'entre nous peut recevoir la joie du salut parce que le Seigneur Dieu, Père du ciel et de la terre, a décidé de révéler sa bonne nouvelle à ceux qui sont simples. Donc le Seigneur Jésus savait l'irremplaçable valeur de la joie divine, joie à sauver les pécheurs. Et c'est pourquoi donc il n'a pas hésité pour sa part à aller à la croix. Et c'est là que l'épître aux Hébreux nous dit au chapitre 12, verset 2: Ayez les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. En échange de la joie qui lui était réservée, le Seigneur a accepté de souffrir la croix. Dans ces moments-là, ce n'était pas, il ne ressentait certainement pas la joie au moment de la croix. Il était dans la souffrance, la douleur. Mais il savait que par ses souffrances, il y aurait le salut et que il accéderait ensuite à la joie éternelle dans la présence de son Père qui l'élèverait dans la gloire. Alors, les yeux sur Jésus, eh bien, nous-mêmes, nous devons aussi demander au Seigneur cette grâce de savoir passer par le temps de la souffrance, le temps de l'épreuve, souffrir patiemment dans un sens tout au long de cette vie. Parce qu'un jour, le Seigneur nous accueillera et il nous dira si nous avons mis en œuvre les talents qu'il nous a confiés. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Entre dans la joie de ton maître. Et là, la joie sera parfaite pour le Seigneur, pour le ciel, pour ceux qui ont vécu sur la terre et qui seront dans la gloire avec le Seigneur, dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, que le Seigneur donc formera. Là, le salut du pécheur, le salut de chacun d'entre nous qui veut bien comprendre qu'il a eu besoin du rachat, que le Seigneur a eu besoin de se donner en sacrifice. Dès l'instant où cette pensée saisit le cœur de quelqu'un, dès l'instant où cette pensée l'amène à confesser son péché et à recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Mais c'est une abondance de joie qui se manifeste dans les cieux. Le Seigneur n'attend en fait que cela. C'est pas, il n'y a rien d'autre dans le cœur de Dieu que d'être dans la joie de sauver les pécheurs et de les amener dans sa gloire. Alors, soyons bien convaincus que notre joie personnelle, c'est d'avoir reçu le Seigneur et d'espérer en lui. Mais aussi, notre joie, maintenant, c'est de transmettre ce message autour de nous. C'est d'amener les pécheurs devant la croix, c'est de les amener à la repentance pour que le ciel se réjouisse et que dans le cœur de ceux qui sont sauvés puisse se manifester déjà la joie du salut. Ça devrait être notre préoccupation permanente que de permettre, on peut dire, à Dieu et aux anges de se réjouir parce que nous avons réussi à amener la prédication de l'évangile dans la vie de quelqu'un. C'est cela l'évangile, c'est cela la naissance de Jésus, c'est cela Noël, c'est le salut pour le pécheur. Et donc la prédication qui se poursuit jusqu'à ce que le Seigneur vienne, prédication de la bonne nouvelle, du pardon des péchés. Et si voilà, quelqu'un n'a pas aujourd'hui reçu le pardon de ses péchés par la foi au Seigneur Jésus-Christ, alors combien j'aimerais que ce soit le moment pour vous de réjouir le cœur de Dieu, de réjouir le ciel en vous offrant vous aussi au Seigneur par la foi. Et alors, non seulement le ciel sera réjoui, mais cette joie, eh bien, elle se manifestera dans votre cœur dès l'instant où vous aurez fait personnellement et véritablement cette démarche d'engagement envers Christ. Amen. Je vais prier, ensuite on va prendre un cantique ensemble. Seigneur, mon Dieu, mon Père, je vais te bénir et te rendre grâce parce que tu es venu par la personne de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et tu m'as appelé personnellement à croire en toi. Tu m'as appelé personnellement à recevoir tes commandements et à les mettre en pratique. Gloire à toi, Seigneur. Merci d'avoir eu ce privilège de te connaître et de te servir dans ce monde, de témoigner de ton royaume, de témoigner de ta grâce. Seigneur, je te prie que cette joie se répande au milieu de nous, que nous soyons tous ensemble de fervents propagateurs de la bonne nouvelle pour que, quelles que soient les réactions négatives, hostiles d'un monde qui ne te connaît pas, il y a ceux que tu as appelés d'avance, Seigneur, ceux que tu agrées, qui reçoivent la bonne nouvelle et qui soient sauvés, Seigneur, et que tous participent à la joie du ciel. Seigneur, amen. Je vous invite à chanter ensemble le numéro 244 sur les ailes de la foi. Qui en fait m'a été inspiré, rappelé. Alors que j'avais cette inspiration sur la joie du ciel. Et vous savez qu'il y a un cantique de Noël qui dit « Joie pour le monde ». Et ça a résonné dans mon esprit « Joie au ciel ». Mais immédiatement, je me suis souvenu qu'en fait, cette joie au ciel avait trait dans ce cantique à la repentance et au salut, à la conversion du pécheur. Alors, nous pouvons chanter Bon, nous ne maîtrisons pas forcément tout à fait bien le rythme de ce chant, mais on va essayer de chanter le mieux possible. Encore être de retour. Amen.